Chapitre 3. Rencontre. De faibles gémissements provenant de l'autre extrémité de la pièce me rappelèrent que le recteur et sa femme avaient assisté à la scène qui venait d'avoir lieu. La pauvre Madame Finch, étendue sur sa chaise, pleurait et se lamentait. Et son mari, le bébé dans les bras, essayait de la réconforter. J'aurais dû peut-être lui venir en aide, mais j'avoue que le chagrin de Madame Finch ne m'impressionna que médiocrement. Je réservais ma sympathie tout entière pour un autre. J'oubliais donc le recteur et sa femme, mais en revins auprès d'Oscar. Cette fois, il fit un mouvement et leva la tête en me voyant. Non, jamais je n'oublierai la douleur muette de son visage et le regard morne qu'il me jeta. Je lui pris la main. Je me sentis saisi pour le pauvre garçon, méconnu par celle qu'il aimait, d'une compassion maternelle qui me fit l'embrasser comme s'il eût été mon fils. « Allons, Oscar, lui dis-je, un peu de courage. Fiez-vous à moi, je tâcherai d'arranger les choses. » Il poussa un soupir entrecoupé et, plein de reconnaissance, il me pressa la main. Je voulus reprendre la parole, mais il m'arrêta en regardant subitement du côté de la porte. « Est-ce que Nugent est dehors ?» me demanda-t-il tout bas. J'allai dans le corridor. Il n'y avait personne. Je regardai ensuite dans la chambre de Lucille, mais je n'y vis que Grosseux et la nourrice, à laquelle je demandai, après l'avoir fait sortir, si elle avait revu Nugent. Elle me répondit qu'il avait quitté la jeune fille subitement à la porte de la chambre à coucher et était sorti du presbytère, et qu'elle l'avait vu se diriger d'un pas rapide dans la direction des dunes, et tournant le dos au village. Nugent est parti, dis-je en revenant à Oscar. Ajoutez à toutes vos bontés pour moi, répondit-il. Laissez-moi partir aussi. J'eus peur tout à coup qu'il ne nourrît le dessein de vouloir suivre son frère. Attendez un peu, lui dis-je, et reposez-vous. Il secoua la tête en signe de refus. Il faut que je sois seul, dit-il. Puis, après avoir réfléchi un instant, il ajouta une question. « Nugent est-il allé au sable ?»« Non, on l'a vu se diriger du côté des dunes. » Il me prit de nouveau la main. « Par pitié, dit-il, laissez-moi partir. »« Chez vous, au sable ?»« Oui. »« Permettez-moi de vous accompagner. » Il refusa en s'excusant et en me disant que j'aurais de ses nouvelles dans le courant de la journée. Il ne versa pas une larme et ne montra nullement cette irritation à laquelle il était si prompt. Sa voix, son maintien, son visage étaient d'un calme pitoyable à voir, le calme du désespoir. « Permettez-moi au moins, lui dis-je, de vous accompagner jusqu'à la grille. Que Dieu vous récompense et vous bénisse de votre sympathie pour moi, mais laissez-moi partir. » Et avec une douceur et une fermeté qui m'étonnèrent, il se débarrassa de mon étreinte et sortit. Ne pouvant plus me soutenir, je tombai toute tremblante sur une chaise. La conviction que de nouveaux malheurs allaient fondre sur nous me rendit presque folle. Dans mon égarement, je me mis à parler tout haut. Ce fut Madame Finch qui me rappela à moi lorsque je la vis, comme dans un rêve, séchant ses larmes et me regardant d'un air effrayé. Le recteur s'approcha ensuite en me témoignant toute sa sympathie et son désir de me consoler. Mais je n'avais pas besoin de ses consolations car j'avais déjà fait le dur apprentissage de la vie et j'étais aguerri au malheur. « Je vous remercie beaucoup, lui dis-je. Réservez vos soins pour Madame Finch. » Comme il y avait plus d'air dans le corridor, j'y allais et je me mis à marcher d'un bout à l'autre pour me remettre de mon agitation. Quelque chose était accroupi sur un des sièges de la fenêtre. Je regardai et je vis que c'était Gix. L'instinct de l'enfant lui avait fait sans doute comprendre qu'un grave événement venait de se passer. Elle me regarda à la dérobée en se cachant la figure derrière sa poupée et avec des doutes sur mes intentions. « Est-ce que vous allez fouetter Gix ?» demanda d'un air inquiet et en se fourrant dans un coin cette singulière petite fille. Je m'assis auprès d'elle et j'eus bientôt regagné sa confiance. Elle commença son babillage que j'écoutais avec une attention que je n'aurais pu prêter en ce moment à une grande personne et qui, grâce à je ne sais quelle influence, me réconforta. Elle me fit enfin comprendre ce qu'elle avait voulu de moi en tâchant de me tirer par ma robe hors du boudoir. Ayant vu tout ce qui s'était passé dans la chambre à coucher, elle était revenue tout de suite me chercher pour me montrer ce qui l'avait tant étonnée, c'est-à-dire Lucille sans le bandeau qui lui couvrait les yeux. Si j'avais eu la sagesse de suivre Jiggs, j'aurais pu empêcher la catastrophe qui venait d'arriver en forçant Lucille, qui à ce moment se trouvait dans le corridor, à rentrer dans sa chambre où je l'aurais enfermée à clé. Mais il était trop tard pour se lamenter. « Jiggs est une bonne petite fille, » dis-je à ma petite amie en la caressant le cœur serré. Jiggs m'écouta, réfléchit un instant d'un air grave et descendit de son siège en réclamant, avec cette remarquable sobriété de langage qui la caractérisait, sa récompense. « Jiggs voudrait bien sortir !» Et la poupée sur l'épaule, elle partit. Je l'aperçus descendant les escaliers pour aller au jardin, comme un ouvrier qui descendrait une échelle. Puis elle s'échappa du jardin, aussitôt que la grille fut ouverte, pour se diriger vers les dunes. Si j'avais pu avoir l'insouciance de l'enfant, j'aurais voulu l'accompagner dans sa promenade. À peine l'avais-je perdu de vue que la porte de la chambre de Lucille s'ouvrit et que Herr Grosso parut dans le corridor. Oh ! Murmura-t-il avec un soupir de soulagement. Voilà juste la vame que je cherchais. Nous voilà dans une jolie position. Il vaut que je reste avec mademoiselle Lucille. Je crois que je finirai par la haïr. Pouvez-vous me donner un lit pour cette nuit ? Je lui répondis affirmativement. Quand je lui demandai des nouvelles de Lucille, il me fit part d'un air grave de ses inquiétudes. Les émotions, aussi variées que violentes, pouvaient, en agitant son système nerveux, mettre sa vie en danger. Il lui fallait, pour obvier à ce danger, un repos absolu et de plus que le docteur resta auprès d'elle 24 heures pour examiner fréquemment ses yeux. Ce ne serait qu'au bout de ce temps qu'il pourrait se prononcer et dire si le mal était irréparable. Je lui demandai comment Lucille avait pu enlever le bandeau et venir dans le boudoir. Herr Grosso répondit d'un ton cynique en haussant les épaules. Que foulez-vous ? Elle a fait sa fatale escapade dans un de ces moments où toutes les vames sont des viragos et d'où les hommes des imbéciles. Il m'expliqua ensuite qu'après le départ de la nourrice, ma pauvre Lucille l'avait priée avec tant d'instance de lui laisser exercer sa vue pour la première fois et s'était montrée si cruellement affligée devant un refus qu'il avait enfin cédé, moins cependant à cause de ses supplications que parce qu'il était intimement persuadé qu'il serait moins dangereux de céder aux caprices de la jeune fille que de la contrarier, avec un tempérament aussi irritable et sensible que le sien. Il lui avait donc donné son consentement, en stipulant cependant que la jeune fille se contenterait, pour cette fois, d'exercer sa vue sur les meubles et les objets qui se trouvaient dans l'appartement. Il avait eu l'imprudence de se fier aux promesses de Lucille, qui avait consenti à tout ce qu'il demandait. À peine le bandeau était-il levé, qu'oubliant tout ce qu'elle venait de promettre, elle s'était arrachée à ses mains comme une folle et s'était précipitée dans le boudoir avant qu'il eût pu la retenir. La catastrophe était inévitable et ne s'était pas fait attendre. Toute faible qu'elle fût, sa vue lui permettait cependant de distinguer ce qui se trouvait devant elle. Elle vit donc une femme, Madame Finch, un homme d'un certain âge et à cheveux gris, Monsieur Finch, et un jeune homme dans lequel, grâce à sa taille et à la couleur de ses cheveux, elle ne pouvait que reconnaître Oscar. Le mal était fait, il n'y avait plus qu'à l'empêcher de s'étendre. Il ne fallait pas qu'elle conçût même le moindre soupçon de sa fatale méprise, et si, par malheur, nous en touchions un mot à Lucille, il ne pourrait plus répondre des conséquences et abandonnerait sa malade. Avec sa prononciation bizarre, Herr Grosso me donna ses explications et nous indiqua ce que nous avions à faire. Personne autre que Fou et la pote de Silla ne doit s'abrocher. Fou la surveillerait chacune à votre tour. Elle s'endormira bientôt. Quant à moi, je fais fumer ma pipe de tout bas dans le chartin. Écoutez-moi bien, montame Pratolungo. Quand le bon Dieu il fit les femmes, il eut pitié des pauvres hommes, et c'est alors qu'il créa le tout bas pour les consoler. M'ayant ainsi donné son opinion sur les œuvres du Créateur, Herr Grosso secoua sa tête crépue et s'en alla clopin-clopant au jardin. J'ouvris sans bruit la porte de la chambre à coucher en y jetant un regard et en disparaissant juste à temps pour éviter le recteur et Madame Finch qui s'en retournaient chez eux. Je vis Lucille couchée sur un sofa. Heureusement, elle s'endormait à ce moment et me demanda d'une voix endormie qui était là. Zilla était assise auprès d'elle. Ma présence étant inutile, je me retirai, bien aise pour la première fois, de sortir de la chambre de Lucille. Par une contradiction que je ne pourrais expliquer, ma sympathie pour Oscar était mitigée d'un sentiment d'hostilité qui m'éloignait pour le moment de Lucille. J'avouerai à ma grande honte que je me sentis presque en colère contre elle en l'envoyant s'endormir tranquillement et en songeant que le pauvre Oscar restait au sable sans personne pour le consoler. Ce n'était cependant pas elle qu'il fallait blâmer pour ce qui venait de se passer. Quand je fus dans le corridor, une autre question se présenta à mon esprit. Qu'allais-je faire ? La maison me sembla insupportable dans sa solitude et mon anxiété sur le compte d'Oscar devint telle que je mis mon chapeau et sortis. Ne voulant pas déranger Herr Grosse, qui fumait sa pipe, je passai aussi rapidement que possible à travers le jardin et me trouvai enfin dans le village. Mon inquiétude au sujet d'Oscar se compliquait d'un désir mêlé de colère de savoir la ligne de conduite que suivrait Nugent. Maintenant qu'il avait causé le malheur prévu par Oscar et que celui-ci avait voulu empêcher en le priant de quitter Dymchurch, nous débarrasserait-il à tout jamais de sa présence s'il allait vouloir rester ? Cette idée m'inspira une telle appréhension de ce qui pourrait résulter de son séjour prolongé au sable que je me mis à trembler. Et, comme mes jambes fléchissaient, je fus forcé à ma sortie du village de m'asseoir sur le bord de la route et d'attendre que mes idées eussent repris leur cours ordinaire. Une minute ou deux après, j'entendis un bruit de pas. Mon cœur tressaillit dans ma poitrine. Je crus que c'était Nugent qui s'approchait. Mes craintes étaient mal fondées. Ce passant n'était que Guthridge, l'aubergiste du village, qui s'en retournait chez lui. Il s'arrêta et me tira son chapeau. « Fatiguée, madame, » me dit-il. La pensée qui me dominait se fit jour, tout indisposée que j'étais, dans la question que je fis à l'aubergiste. « Auriez-vous vu, par hasard, M. Degen Dubourg ?» lui demandai-je. « Il y a 5 minutes. »« Où ?»« Allant au sable. » Je me levai comme si j'avais reçu un coup ou une balle. Je souhaitai le bonjour au digne aubergiste qui me regardait tout étonné, et je me mis à marcher aussi rapidement que possible dans la direction des sables. Je me sentais glacé de terreur en me demandant si les deux frères allaient se trouver réunis dans la même maison, mais je marchais toujours. Une résolution inébranlable de me jeter entre les deux frères et de les séparer me tenait lieu de courage. Je me sentais à la fois résolue et craintive, et à un moment, je fus assez insensée pour m'imaginer qu'ils allaient me tuer. Un moment après, passant avec la même légèreté à une opinion tout opposée, je me dis « Bah, ce sont des hommes d'honneur, incapables de toucher une femme. » Quand j'arrivai en vue de la maison, j'aperçus le domestique d'Oscar, debout devant la porte et oisif. Cela m'étonna, car je savais que c'était un travailleur zélé et qu'on ne le trouvait jamais là où ses occupations ne l'appelaient pas. J'examinai son visage, mais je vis qu'il jouissait de son calme ordinaire. « Monsieur Oscar est-il à la maison ?» lui demandai-je. « Pardon, madame, monsieur est chez lui, mais il ne peut vous recevoir. Il est en ce moment-ci avec monsieur Nugent. » J'appuyai ma main sur le petit mur qui s'élevait devant la maison et je fis un grand effort pour paraître calme en apprenant cette nouvelle. « Je suis sûre, dis-je, que monsieur Oscar me recevra. » J'ai l'ordre formel de M. Oscar de me tenir à la porte et de dire aux visiteurs sans exception qu'il ne peut les recevoir et qu'il est occupé. Pendant que le domestique parlait, je profitai de ce que la porte était entrouverte pour écouter. Le silence qui régnait autour de la maison était tel que si les deux frères s'étaient disputés, leurs paroles seraient venues jusqu'à moi. Je n'entendis rien. C'était étrange et inconcevable. Comment ? Ils étaient là tous deux et rien de fâcheux n'était encore arrivé. Je laissai ma carte et je m'avançai jusqu'au coin du mur. À peine eus-je perdu de vue le domestique que je revins et m'aventurai aussi près que possible de la fenêtre de la salle à manger. J'entendis les voix des deux frères, mais je ne pus distinguer leurs paroles. Ils se parlaient bas et j'eus beau écouter, je ne pus percevoir dans leur ton la moindre trace de colère. Les émotions se succèdent avec une telle rapidité dans le cœur d'une femme que j'en fus tout interdite et que la curiosité succéda à la peur. Je m'éloignai. Après avoir marché à l'aventure pendant une demi-heure dans la vallée, je m'en revins au presbytère. Lucile dormait toujours. J'envoyai Zilla, dont je pris la place, à la cuisine, où la femme de l'aubergiste se trouvait déjà pour m'aider à préparer le dîner. Mais la science culinaire de Madame Goodridge ne suffisait pas à la préparation des plats que nous devions servir à Herr Grosse, et j'arrivais tout juste à temps pour que nous fussions à même d'affronter la critique d'un gourmet tel que le docteur. Lucile dormit encore une heure. Je profitai de son sommeil pour envoyer chercher Herr Grosse. Le docteur parut, exhalant une forte odeur de tabac, examina les yeux de sa malade et ordonna qu'on lui administrât du vin de Porto et de la gelée de viande. Puis il bourra son énorme pipe et s'en retourna d'un air grognon au jardin. M. Finch vint ensuite demander des nouvelles de Lucile et s'en alla trouver sa femme, qu'il déclara être en ce moment irresponsable de ses actions et dans un tel état d'agitation nerveuse qu'il faudrait peut-être qu'elle prît encore un bain chaud. Il refusa d'un air pathétique de se réconcilier avec Herr Grosse et de venir dîner. « Après ce que j'ai bu et ce que j'ai souffert, me répondit-il, je ne suis guère en humeur de banqueter et de déguster des plats nouveaux. Je vous remercie de l'intention, Madame Pratolung. Vous êtes une excellente femme. Mais ce qu'il me faut, c'est un repas frugal à côté du lit de mon épouse, que je console en ma double qualité de pasteur et d'époux quand le bébé ne crie pas. C'est tout ce que je ferai aujourd'hui. Bon appétit. Croyez-moi, je ne veux pas entraver votre petit festin. Au revoir, madame. Au revoir. » Un second examen de Lucile nous mena jusqu'à l'heure du dîner. Herr Grosso reprit sa bonne humeur en voyant la nappe mise. Nous n'étions que lui et moi à table. Il envoya à Lucile des morceaux qu'il choisit lui-même et, tout en mangeant, il me dit qu'elle avait échappé à tout danger sérieux pour ses yeux, mais qu'un repos absolu était urgent et qu'il déclinait toute responsabilité dans ce qui pouvait arriver tant que la nuit ne serait pas écoulée. Quant à moi, le manque complet de nouvelles d'Oscar me rendait de plus en plus inquiète. L'anxiété dont j'avais souffert dans la chambre obscure avec Lucile ne me semblait rien en comparaison de ce que je souffrais à présent. Je vis Herr Grosse qui me regardait à travers ses lunettes d'un air mécontent. Et il avait de bonnes raisons de s'étonner, car jamais de ma vie je n'avais été aussi stupide ni aussi maussade. Nous eûmes enfin, vers la fin du dîner, des nouvelles des sables. Zilla vint nous dire que le domestique d'Oscar désirait me parler. Je m'excusai auprès du docteur et je sortis aussitôt. Mais à peine eus-je jeté un coup d'œil sur la figure du domestique que je me sentis prise de frayeur pour son maître. Cet homme s'était attaché sincèrement à Oscar, qui le traitait avec bonté. Je vis que ses lèvres tremblaient et qu'il pâlissait et rougissait tour à tour. « Je vous apporte une lettre, madame. » Il me la tendit et je reconnus que l'adresse n'était pas de la main d'Oscar. « Comment va votre maître ?» lui demandai-je. « Pas très bien, quand je l'ai vu en dernier lieu. »« Quand l'avez-vous vu en dernier lieu ?»« Je vous apporte une bien triste nouvelle. Il y a eu du changement au sable. » « Du changement? Que voulez-vous dire? Où est M. Oscar ?»« M. Oscar a quitté Dymchurch. »